Le texte pour nous ce matin est au chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, verset 17 au verset 21. Donc chapitre 3, verset 17 à 21. La parole nous dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Je vous rappelle le contexte de cette épître. Donc l'apôtre Paul a écrit cette lettre lorsqu'il était en prison à Rome, en attente d'un procès dans lequel une des issues possibles pouvait être la mort. Il est en prison tout ça parce qu'il avait mis sa foi en Jésus-Christ. Dans ce chapitre 3, dans les versets précédents, Paul apporte son témoignage personnel. Et en parlant de sa vie, il emploie l'image d'une course dont le but est de remporter le prix, afin d'illustrer la vie chrétienne. Vous pouvez voir au verset 14 du chapitre 3, je vais vous le lire. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et cette course, il invite tous les chrétiens à y participer. Donc vous pouvez lire au verset 16. « Seulement au point où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas. » Et donc, en tant que chrétien, on est des coureurs dont l'objectif est de remporter le prix de la vocation céleste. Et pour courir, il est cependant nécessaire d'adopter le bon état d'esprit afin de remplir les objectifs. Et dans ces versets, Paul nous montre quel est le bon, quel est le mauvais état d'esprit pour la course. Et donc, j'intitulerai ce message « Courir dans la vie chrétienne avec le bon état d'esprit ». Et nous allons voir ensemble quelques règles au préalable pour courir cette course. Quel est le mauvais état d'esprit à ne pas suivre? Le bon état d'esprit à suivre? Quelques applications. Donc d'abord, les règles. Donc cela se trouve au verset 17. Vous pouvez voir qu'il y a des verbes à l'impératif. Soyez, portez. Et donc la première règle, c'est qu'on doit être des imitateurs tous ensemble. Le verbe grec pour imitateur inclut le mot tous, et c'est la seule fois que cela est employé dans la parole, en grec. Et donc c'est une action collective. Ce n'est pas une course individuelle. À la différence des courses dans les compétitions sportives, on n'est pas là pour écraser les autres, mais on est là pour remporter le prix ensemble. Malheureusement, dans l'entourage de Paul, certains n'avaient pas du tout cette règle-là, on le voit au chapitre 1, verset 17. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Donc on n'est pas des adversaires. Entre nous, mais on est là en tant qu'amis. Paul dira au contraire, au chapitre 2, versets 2 et 3, « Rendez-moi joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Les différends entre chrétiens doivent être réglés. afin de poursuivre ensemble le but. N'oublions pas que c'est tous ensemble, dans la même voie que l'on doit se diriger. Une autre règle que l'on voit dans ce verset 17, c'est qu'on doit être des observateurs, porter les regards. Il s'agit d'être attentif, notamment aux exemples de personnes qui courent dans cette course. Et dans cette lettre, Paul cite et met en avant quelques exemples qu'on a vus précédemment. L'exemple de Timothée, l'exemple d'Épaphrodite, et surtout l'exemple suprême, l'exemple de Jésus-Christ. Et il est attentif à mettre en avant les bonnes choses, les traits de caractère qui illustrent le bon état d'esprit. Une autre chose, c'est qu'on doit courir selon le modèle. On ne doit pas créer une voie alternative. Ne pas chercher une spiritualité hors des sentiers battus. En particulier, je pense à ceux qui peuvent verser dans le mysticisme, recherche de miracles ou de révélations. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie chrétienne. Tout est dans la parole de Dieu. Et donc, nous allons aborder maintenant dans quel état, les états d'esprit dans lesquels on doit courir. Tout d'abord, le mauvais état d'esprit. C'est dans le verset 18 et 19 que l'on peut voir la description de personnes qui incarnent ce mauvais état d'esprit. Nous allons relire ces versets. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc déjà, les caractéristiques, on va les voir dans le verset 19. Première chose, c'est déjà un mauvais point de vue sur soi-même. Ils ont pour Dieu leur ventre. En vérité, ce sont des personnes qui vivent centrées sur eux-mêmes. Le moi est la raison d'être. Et cela peut résulter à l'exaltation des plaisirs du corps. La vie consiste en l'assouvissement des désirs du corps, l'apaisement de nos appétits, que ce soit excès alimentaire, plaisir sexuel, et jusqu'à l'extrême, ça peut être les addictions de divers types. C'est l'asservissement de notre être à ses passions, sans foi ni loi. C'est aussi le gonflement de l'estime de soi, parfois l'apitoiement sur soi, le versement dans la colère ou l'amertume. En vérité, c'est le moi qui dicte sa loi. En cela sont portés par ses sentiments, par ses pulsions, et tout cela au détriment de notre relation avec Dieu. En réponse, l'apôtre nous dit, je remets le verset que l'on a lu précédemment, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, et que l'humilité vous fasse regarder les hommes comme étant au-dessus de vous-même. » Et le bon point de vue sur soi-même à adopter, au chapitre 3, verset 3. « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Donc, le mauvais état d'esprit, ça touche déjà le regard sur nous-mêmes. En tant que chrétiens, nous sommes pécheurs. Mais Dieu nous a aimés. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Souvent, quand on n'inclut pas le regard de Dieu sur nous, on a une mauvaise vision de nous-mêmes. Nous sommes pécheurs, donc nous devons rester humbles. Mais Dieu nous a aimés, donc nous ne devons pas rester dans l'apitoiement sur soi. Dieu nous a aimés, et il a fait le plus grand des dons pour nous, c'est son Fils Jésus-Christ lui-même. Et là se trouve le bon regard que l'on doit avoir sur nous-mêmes. Une autre caractéristique de ce mauvais esprit, c'est des mauvaises valeurs. On le voit encore dans le verset 19. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc on observe une inversion de valeurs. Dans le contexte de l'épître, c'est l'honneur excessif accordé au respect d'une justice de soi comme gage du salut. Et Paul l'a expérimenté lui-même, cette inversion de valeur. Vous pouvez voir, au début, avant qu'il rencontre Jésus-Christ, au chapitre 3, versets 4 à 7, je vous le lis. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Ces choses qui étaient pour moi des gains. Donc vous voyez que Paul mettait ses valeurs dans son origine, dans son statut social en tant que pharisien, dans son application de la loi, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, dans son zèle jusqu'à persécuter l'Église qui était contre sa religion à lui. Et c'était pour lui des gains. Mais c'est ça, en fait, plus tard, quand il rencontre Jésus, c'est justement ce gain-là qu'il considère comme une perte. Verset 7 à 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et donc on observe bien cette inversion de valeur. Et c'est ça qui différencie la foi chrétienne de toutes les autres religions. Les autres religions se basent sur la justice qui est construite de la main de l'homme pour être approuvée par Dieu. Au contraire, la foi chrétienne dit on ne peut jamais être agréable à Dieu par sa propre justice. Il n'y a qu'une seule façon d'être agréable à Dieu, c'est d'obtenir la justice qui vient de Dieu. Et la seule façon de l'obtenir, c'est par la foi en Christ. C'est lui qui l'a obtenu pour nous. Et du coup, notre valeur, ça doit être centré sur Christ et pas sur nous-mêmes. Donc, dans notre foi, sachons mettre en valeur ce qui est selon la parole. Les valeurs, ça touche aussi nos pensées et nos règles de conduite. Et Paul dira ainsi, au chapitre 4, verset 8, « Au reste, au frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. À l'époque, la société mettait en valeur l'immoralité sexuelle, l'impureté, l'orgueil, et même jusqu'à atteindre parfois des chrétiens dans les églises. Nos valeurs doivent être le fruit d'une décision de calquer nos pensées sur ce que dit la parole de Dieu. Et donc, notre conduite doit être imprégnée de la Sainte Parole dans notre foi et dans nos règles de conduite et nos valeurs. Troisième caractéristique du mauvais état d'esprit, c'est dans nos priorités. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est-à-dire, c'est l'attachement aux choses terrestres en l'absence de toute conscience de l'éternité. Concrètement, c'est dire, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est la recherche de plaisir qui prévaut sur toute chose. Ça peut être aussi la recherche de prospérité financière, de réussite sociale, l'appât du gain, en dehors de toute crainte de vie. Cela n'est pas à dire que l'on doit être le dernier des derniers dans la société, mais ce qui est jugé, c'est le degré d'attachement aux choses du monde, au détriment des choses spirituelles, au détriment de la recherche de communion avec Dieu. Notre priorité, ça doit être de investir dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc si on résume, déjà c'est le mauvais état d'esprit, c'est un mauvais point de vue sur soi-même. On a Dieu, le Dieu, notre Dieu c'est nous-mêmes. Mauvaise valeur, gloire dans ce qui fait la honte. Mauvaise priorité, ne pense qu'aux choses de la terre. Mais ces choses découlent d'une chose. Au verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Le point de bascule. Le point central qui fait que l'on peut, que l'on n'est pas du tout dans le bon état d'esprit, c'est notre point de vue par rapport à la croix de Christ. C'est de là que découlent nos priorités, notre regard sur nous-mêmes, nos valeurs. Et même la finalité, l'éternité. Leur fin, au verset 19, sera la perdition, la séparation éternelle avec Dieu, autrement dit l'enfer. Et la question pour nous ce matin, où en êtes-vous par rapport à la croix de Jésus-Christ? Est-ce que c'est pour vous quelque chose de complètement méprisant? Est-ce que c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt pour vous? Ou est-ce que c'est la délivrance de votre âme? Et de là découlera votre état d'esprit dans cette vie, mais également l'éternité, après la mort, votre destinée. Vous pouvez courir, mais au final perdre la course. Donc le problème avant tout, c'est de régler le salut de vos âmes envers votre Créateur. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est de croire en Jésus-Christ. Repentez-vous et croyez en Christ pour le salut de votre âme. Et c'est par là que l'on peut commencer à avoir le bon état d'esprit. C'est ce que nous allons voir, le bon état d'esprit pour courir dans la vie chrétienne. On le trouve au verset 20 et 21 du chapitre 3. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc la première chose pour avoir le bon état d'esprit, c'est notre regard sur nous-mêmes également, en tant que citoyens célestes. Notre cité est dans les cieux. Donc nous sommes dans ce monde en tant qu'étrangers et voyageurs sur cette terre. Et nous faisons allégeance à la patrie céleste. Si je puis dire les choses ainsi, notre président, c'est notre Père céleste. Et nous sommes les ambassadeurs du Christ en ce bas monde. Il est à noter qu'à l'époque romaine, de se déclarer comme serviteur du seul vrai roi, le Dieu du ciel, pouvait être passible d'une mort certaine quand l'empereur s'opposait à Dieu. Et nous rendons compte pour le Dieu des cieux. Et c'est un honneur qui nous est fait par pure grâce. Et de cette citoyenneté, il y a aussi des privilèges dont nous sommes bénéficiaires. Je vous en citerai deux qui sont présents dans l'Épître. La paix de Dieu, chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc la paix de Dieu, au-delà des circonstances difficiles, des choses les pires que l'on peut vivre, la paix de Dieu peut surpasser. Notre bénédiction, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. La force du Christ nous est offerte pour traverser les épreuves de la vie. Soyons fiers, si je puis dire patriotes, au lieu d'être honteux d'appartenir à une telle patrie. Soyons fidèles à cette patrie au lieu d'être déserteurs du royaume des cieux. Que cela soit une bénédiction au lieu d'être un fardeau. Une autre chose du bon état d'esprit, c'est une aspiration. Quelque chose qui nous anime. Et la chose qui nous anime, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Verset 20. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Dans le grec, l'attente, c'est surtout une attente avec un ardent désir que la chose arrive. C'est un peu, pour donner une illustration, comme la naissance d'un enfant tant attendu pendant la grossesse. On a envie que cet enfant, on puisse le porter dans nos bras, que la grossesse s'estompe, parce que elle peut parfois être gage de souffrance. Et quel soulagement et quel bonheur de serrer l'enfant dans ses bras quand il arrive. Et c'est un peu aussi ce que Paul exprime lui-même, au chapitre 1, verset 23. « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Donc c'est ce qu'il y a de meilleur pour un chrétien, de rencontrer son Sauveur. Et cette attente, pour nourrir cette attente, il faut prendre source dans l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ et dans la communion avec Dieu, qui doit se solder par un engagement entier pour lui. La conscience de ce qu'on gagne à être lié en Christ nourrira cet ardent désir de le rencontrer. Et Paul le dira ainsi, au chapitre 1, verset 21, « Christ est ma vie, et mourir est un gain. » Même la mort devient, en fait, comme une bénédiction, parce que ça sera le moment où il rencontrera le Seigneur Jésus-Christ. Donc aspirons à cette rencontre, préparons-nous à cette rencontre. nous préparons pas au dernier moment, où il faut vite enfiler, se préparer, s'apprêter. Mais préparons-nous dès aujourd'hui. Servons-le avec empressement. Faisons sa volonté dans notre vie. Et donc cette rencontre, elle se soldera par un futur glorieux. Au verset 21, nous serons revêtus d'un corps de gloire semblable au Christ, qui transformera, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Une fois auprès de Dieu, nos corps usés seront changés en corps glorieux. Les flétrissures de la chair ne seront plus qu'anecdotiques. Ainsi, notre vision de nos infirmités présentes ne seront plus qu'un mauvais souvenir. La rédemption sera complète, touchant corps, âme et esprit. Notre corps sera semblable à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a devancés parce qu'il a expérimenté la gloire après l'humiliation. Au chapitre 2, versets 8 et 9, parlons du Christ. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc on peut voir l'humiliation jusqu'à la mort, et même encore une mort humiliante jusqu'à la mort de la croix. C'était la pire mort à l'époque qu'on pouvait subir. Mais c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc le Père Céleste l'a élevé. Le plus élevé, on ne peut pas plus élevé que ça, c'est-à-dire il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que c'est la plus haute place qu'on peut donner à quelqu'un. Il ne peut pas y avoir plus. Et de même, notre pèlerinage terrestre se soldera par la gloire céleste, et cela pour l'éternité. Et ce futur glorieux, c'est Dieu lui-même qui l'accomplira, et achèvera l'œuvre, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc en Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, en parlant de Dieu, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc c'est lui qui achèvera l'œuvre. Dans sa lettre, Paul cite quelques exemples traduisant cet état d'esprit en action. On peut voir le zèle pour l'expansion de l'Évangile malgré les circonstances difficiles pour Paul et Épaphrodite. La recherche du bien de ses frères et sœurs en Christ, au détriment de son bien personnel, pour Paul, Épaphrodite et Timothée. Et on peut voir l'humilité de Christ, se dépouillant de ses privilèges divins pour vivre une vie parfaite en tant qu'homme, souffrant la mort de la croix, tout en étant obéissant à son Père céleste. Voilà des exemples auxquels on doit porter attention pour vivre, courir, dans la vie chrétienne. Donc si on résume, le bon état d'esprit, c'est déjà se regarder nous-mêmes en tant que citoyens célestes. Nous ne sommes pas citoyens terrestres, mais citoyens célestes. L'aspiration, ce qui nous anime, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Souvenir de sa destinée, un futur glorieux, un corps de gloire semblable au Christ. Et c'est un quel honneur d'être au bénéfice de ce futur, de cette destinée. Pour terminer, des applications. Première chose, avec quel état d'esprit voulons-nous courir en tant que chrétien? On peut être chrétien, se tromper complètement d'état d'esprit, de priorité, de regard sur le monde qui nous entoure, sur nous-mêmes. Mais nous pouvons rectifier le tir. avec l'aide de notre Seigneur. Je vous rappelle l'un des privilèges en tant que citoyens célestes, c'est que nous avons la force de Christ. Laissons-nous être transformés par la force de Christ. Prenons de ceux qui ont cette foi, cet état d'esprit, regardons leur façon de l'exprimer, de vivre à la lumière de la parole de Dieu. Comme des athlètes d'une même équipe, ensemble, inspirons-nous des meilleurs. Entraînons-nous ensemble dans le but de remporter le prix de la vocation céleste. Deuxième implication, quel état d'esprit laissons-nous transparaître dans notre vie? Quelles influences laissons-nous auprès de notre entourage? Qu'est-ce qu'on laisse auprès de nos proches, nos enfants, nos voisins? Est-ce qu'on laisse un état d'esprit d'un ennemi de la croix ou d'un citoyen des cieux? Vous voyez que la façon de courir a une implication directe sur des répercussions sur le monde qui nous entoure. Et dernière chose, peut-être le plus important, pour quelle course participez-vous? Est-ce que vous êtes inscrit à la course qui va vers la perdition ou à celle qui va vers la victoire? Si vous n'êtes pas sûr de savoir ce qui se trouve à la ligne d'arrivée de votre vie, il est encore temps de vous inscrire à la bonne course. La course de la vie chrétienne, de la vie en Jésus-Christ. L'inscription est gratuite. Il faut juste une condition. La foi en Christ. Il a déjà remporté la victoire. Il ne reste plus qu'à avancer dans ses traces. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout accompli. Nous n'avons seulement qu'à ajouter foi en son action. La course de la vie chrétienne, on a un coach personnel. Et c'est Dieu lui-même, notre Créateur, qui nous connaît personnellement. Vous aurez une équipe qui aura le même objectif que vous, avec des athlètes illustres qui ont couru avant nous, jusqu'au bout en l'honneur du drapeau de la patrie céleste. Il est encore temps de choisir votre destinée. J'espère que vous ferez le choix de la bonne course, celle de la victoire en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole.